7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde avec vous, Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir, Michael.
Alors, je dirais essentiellement l'Europe ce soir, Olivier, avec tout d'abord les inquiétudes d'Amnesty International.
Oui, Amnesty s'inquiète, Michael, de la montée des populismes sur notre continent. De tels niveaux de haine n'avaient pas été constatés depuis les années 30, prévient même l'ONG dans son rapport annuel sur l'état du monde présenté aujourd'hui. Les paroles xénophobes sont désormais installées. L'Europe entre aujourd'hui dans la phase numéro 2. De l'extrémisme, celle où les décisions politiques concrétisent ces discours. C'est cette nouveauté qui préoccupe aujourd'hui le directeur de recherche Europe d'Amnesty, John Dalhuysen. Il est interrogé par Claude Guibal.
La politique de la diabolisation, des discours déshumanisants, il n'y a rien de nouveau là-dedans en Europe, depuis des décennies même. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'est deux choses. C'est le mouvement vers le centre de ces discours, son adoption par des partis centristes, et l'adoption de mesures qui ont des conséquences directes sur les droits de l'homme et les individus. On le voit dans le domaine de l'immigration, on bafoue les droits à l'asile, on le voit dans le domaine des mesures contre le terrorisme, une politique d'amalgame entre immigrants, terroristes, menaces à sécurité. On évite de parler des questions réelles qui provoquent les inquiétudes, souvent légitimes d'ailleurs, sur l'emploi, sur la sécurité, sur l'identité nationale.
Est-ce que ça a un sens particulier de lancer cette année ce rapport en France à la veille d'échéances électorales lourdes ?
On a eu quand même 20 ans une génération gâtée. Une génération qui n'a jamais pensé qu'il était nécessaire de parler des droits de l'homme chez nous. On parlait des droits de l'homme, même Amnesty International le faisait pour les autres. Et maintenant, il faut le faire chez nous, et le défi est là.
L'Europe respecte-t-elle les droits de l'homme dans son rapport annuel ? Amnesty International estime qu'il faut de nouveau s'en préoccuper.
Et direction la Hongrie, l'un des pays où l'on s'inquiète justement de ces dérives populistes de la classe politique. Et pour les contester, un mouvement citoyen a décidé de s'opposer à la candidature de Budapest aux Jeux Olympiques 2024.
Ils ne veulent pas de ces Jeux et tentent de faire barrage à leur propre capitale. Avec Paris et Los Angeles, Budapest fait partie des trois derniers finalistes. Mais sa candidature pourrait donc être compromise. Bonsoir Florence Labruyère.
Bonsoir Olivier.
Correspondante de Radio France à Budapest, Florence, ce mouvement de jeunes Hongrois a obtenu suffisamment de signatures pour qu'un référendum soit organisé sur cette question.
Oui, ce mouvement a rassemblé 266 000 signatures, soit deux fois plus qu'il n'en faut pour un référendum. C'est 20% des électeurs de Budapest. Quand le chiffre est tombé, c'était l'euphorie au quartier général du mouvement.
Et comment expliquer cette fièvre anti-olympique à Budapest ?
Eh bien, les Hongrois adorent le sport, mais ils ont peur que ces jeux coûtent trop cher et que l'argent serve surtout à enrichir les politiciens au pouvoir. J'ai demandé à un Budapestois, qui a tenu à rester anonyme, s'il ne serait pas fier, malgré tout, que Budapest accueille les jeux. Et voilà ce qu'il a répondu.
La fierté, c'est beau, mais on ne peut pas en vivre. En Hongrie, beaucoup de gens vivent dans la pauvreté. À quoi ça leur servira d'être fiers s'ils n'ont pas d'argent pour se chauffer ni pour remplir le frigo ?
Et qui compose ce mouvement, Florence ?
Ils sont 150 étudiants et jeunes actifs. Ils ont entre 24 et 30 ans. Et leur mouvement s'appelle Momentum. Ça signifie élan. Alors, au-delà du référendum sur les Jeux, ils ont un projet politique, comme l'explique leur président, András Fekete-Győr, un juriste de 27 ans.
Quand on a créé Momentum en 2015, on avait déjà l'idée de fonder un parti politique. Le thème des Jeux Olympiques, c'était un outil pour faire bouger les choses. Et on a réussi à mobiliser beaucoup de gens. Vous n'avez pas idée à quel point les Hongrois sont apathiques et se désintéressent de la politique, parce qu'ils n'ont plus confiance.
Et Florence, c'est très clair, ce mouvement s'oppose ouvertement à Viktor Orban, le premier ministre de la droite nationaliste.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils vont fonder un parti politique pour pouvoir se présenter aux législatives dans un an. Alors, tous ces jeunes qui ont travaillé à l'étranger et qui parlent plusieurs langues veulent un changement de gouvernement. Ce sont des pro-européens qui souhaitent restaurer la démocratie en Hongrie, une démocratie mise à mal par le gouvernement de Viktor Orban, comme le rappelle Anna Oros. Elle est membre de Momentum, elle a 27 ans.
Le gouvernement harcèle les ONG avec des perquisitions, des contrôles fiscaux. Tous les jours, on apprend que tel ou tel média a été racheté par un entrepreneur proche du gouvernement. En politique étrangère, ce qui ne nous plaît pas, c'est qu'on se rapproche de la Russie, de la Turquie ou de l'Azerbaïdjan. Voilà pourquoi on est inquiet sur l'état de la démocratie dans notre pays.
Et vous voulez vous présenter comme député aux prochaines élections ?
Vous savez, si on habitait en Norvège ou au Danemark, on ne serait sans doute pas dans un mouvement politique. Mais nous, on se sent responsable de l'avenir du pays. Moi, je ne pourrais pas me regarder en face dans le miroir si je n'essayais pas de faire quelque chose. Je ne pourrais pas expliquer ça à mes enfants.
Alors Anna, qu'on vient d'entendre, et ses amis ne savent pas encore si le référendum sur les Jeux Olympiques aura bien lieu, car il est possible que le gouvernement et la ville retire la candidature de Budapest pour éviter ce scrutin qui risquerait de se transformer en plébiscite contre le gouvernement. En tout cas, les jeunes de Momentum sont déjà passés à autre chose. Ils se préparent à faire le tour du pays pour créer des forums citoyens dans toute la Hongrie.
Momentum ou la reprise en main citoyenne donc du territoire hongrois, correspondant signé Florence Labruyère.
Et comme chaque mercredi, Olivier, direction Bruxelles à présent pour notre plongée dans les arcanes des institutions européennes.
Oui, sujet plutôt technique ce soir, accrochez-vous Michael, mais sujet hautement politique qui fait grand bruit dans les couloirs de Bruxelles. Attention, vous êtes prêts? La réforme du mécanisme de comitologie. Bonsoir Johanna Holstein.
Bonsoir.
La comitologie, c'est quoi donc, Johanna?
Alors, voilà bien une procédure inaccessible aux profanes et dont la bulle européenne a le secret. Est-ce que cela vous aide si je vous dis que c'est la méthode de validation des actes délégués et d'exécution ? Non, sans doute pas. Alors, pour faire simple, disons que c'est l'équivalent des décrets en France.
D'accord. Alors, comment s'organise précisément cette comitologie ?
Difficile de faire moins transparent. Des experts nationaux, délégués par leur administration en fonction de leur spécialité, se réunissent à Bruxelles derrière des portes closes. Pas évident donc de l'extérieur de savoir qui a voté quoi. De ce fait, les gouvernements, qui se verraient par la suite reprocher la décision collective par leur opposition, peuvent très facilement se retrancher derrière le fameux « c'est la faute à Bruxelles ». Un exemple peut-être, le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du Roundup, cet herbicide fortement controversé à base de glyphosate, vous souvenez certainement, un dossier délicat, impopulaire. La France, pourtant publiquement opposée à ce renouvellement, a préféré tout simplement s'abstenir lors du vote en comité. Et ce manque de courage politique s'est soldé par l'absence de toute décision. Alors, selon la règle de la comitologie, il est donc revenu à la Commission européenne de trancher en dernier recours et automatiquement à encaisser la colère des ONG. Elle s'est retrouvée dans cette situation inconfortable à 17 reprises en 2015 et 2016 sur la validation des OGM aussi.
Et donc, dernièrement, ras-le-bol de Jean-Claude Juncker, il en a eu marre que les 28 gouvernements se cachent derrière la Commission.
Oui, et c'est pour cela qu'il propose une réforme du mécanisme de décision européenne. Les États membres se verraient en fait privés du recours à l'abstention, vu l'abus qu'ils en font. Mmh. Et on ne voterait plus non plus à bulletin secret. Il faudra désormais assumer ses choix publiquement. Ce sera dur pour nombre d'entre eux. Dernière modification, la possibilité de faire remonter le dossier à la table des ministres concernés pour éviter tout blocage dû à l'absence de décision.
Reste à savoir quand même, Johanna, si les États membres accepteront de renoncer à un mécanisme qui les avantage.
Alors vous mettez là le doigt sur le cœur du problème. Le Parlement, qui n'est pas contre, et le Conseil des ministres, qui représente les gouvernements, et qui n'est donc pas franchement pour, seront l'un et l'autre appelés à voter le texte. Pas sûr en effet que les capitales acceptent de se tirer une balle dans le pied, ce qui promet une vraie bataille juridique et politique, en toute transparence, on l'espère, cette fois-ci.
Bataille que nous suivrons attentivement. Merci Johanna Holstein, en direct de notre bureau de Bruxelles.
Allez Olivier, rien à voir avec la comitologie, mais Europe encore, vous nous emmenez en Grande-Bretagne.
Où un parfum de nostalgie flottera ce soir sur la 37e cérémonie des Brit Awards, un monument de la musique britannique, pourrait y être consacré à titre posthume David Bowie pour son dernier album Black Star, sorti quelques jours avant sa mort, il y a tout juste un an, une année entière d'hommage à Bowie. De cette interprétation de Rebel Rebel par 1000 musiciens l'été dernier dans le stade italien de Cesena. à ce projet de financement participatif lancé hier, projet qui prévoit d'ériger dans son lieu de naissance l'éclair rouge du personnage Aladdin Sane, un monument en acier haut de 3 étages qui nécessite de rassembler 990 000 livres. Il reste 28 jours pour que le quartier de Brixton puisse être frappé par le Memorial Bowl. C'est magnifique à voir.
C'est bien, cette version. 1000 musiciens réunis en hommage à Bowie. Olivier Poujade, merci et à demain.